Bonjour à chacun, à tous les habitués, puis à tous les visiteurs. Nous sommes reconnaissants d'être ensemble, unis dans la foi, quelles que soient nos origines, quels que soient nos lieux d'habitation. Alors, dans moins de 38 heures, on change d'année. C'est la fin de 2018 et c'est le commencement de 2019. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment pour évoquer une parole tout à fait caractéristique de l'Apocalypse, qui ne se trouve pas qu'une fois, mais cinq fois dans ce livre de l'Apocalypse. Alors, je vous invite à lire dans Apocalypse au chapitre 1, les versets 4 à 8. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On lit encore les versets dans le même chapitre, 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Au chapitre 2, au verset 8, nous lisons ceci. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça, c'est pour le début du livre de l'Apocalypse. Et maintenant, à la fin du livre, au chapitre 21, les versets 5 à 7. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. » Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et puis, au chapitre 22, le dernier chapitre du livre, les versets 12 et 13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors, vous l'avez compris, cette parole tout à fait caractéristique de celui de l'Apocalypse, c'est celle-là, cette parole. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'en est la dernière. et tout le reste de l'alphabet est compris entre ces deux-là. Alors ces textes de l'Apocalypse nous transportent bien au-delà du quotidien, mais en même temps, ils ont une incidence importante sur notre quotidien. Et autour de cette parole, je suis l'alpha et l'oméga, j'aimerais évoquer quatre aspects. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga de la connaissance. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga de l'histoire. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga de l'Église. Et enfin, le Seigneur est l'alpha et l'oméga de chacun de nos parcours personnels. D'abord, le Seigneur est l'alpha et l'oméga de la connaissance. Imaginons que un chef réputé écrive un dictionnaire de cuisine. Si je dis c'est l'alpha et l'oméga de la gastronomie, ça veut dire que tout ce qu'on doit savoir est dans ce livre. Que ce livre suffit à répondre à toutes les questions qu'on peut se poser dans le domaine en question. Ça signifie que la connaissance qu'apporte ce livre est complète, qu'elle est fiable. Il en est ainsi la parole de Dieu. La parole de Dieu et Jésus est assimilé à la parole de Dieu, on en reparlera, est l'alpha et l'oméga de la connaissance, de la vérité. Elle est pleinement suffisante et totalement fiable pour nous instruire, pour nous nourrir, pour nous guider. Dieu nous parle de différentes manières. Il nous parle par les perfections de la nature, au moins pour celui qui les comprend comme la manifestation de l'œuvre du Créateur et qui n'évacue pas la question en disant « ça résulte du hasard ». Par les facultés mentales que Dieu a données à l'homme, bien l'homme est capable de percer le voile qui couvre les phénomènes qu'on observe pour considérer les lois naturelles, universelles, qui se cachent derrière ces phénomènes apparents. Le Seigneur nous parle par notre conscience aussi. Et notre conscience, elle s'exprime notamment de deux manières. D'une part, par le sens moral, nous avons tous une certaine idée, un certain sens de ce qui est beau, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon. Et puis la conscience, elle s'exprime aussi par le sens, la pensée de l'éternité. Chacun a cette pensée que nous sommes dépassés par infiniment plus que ce que nous percevons et ce que nous sommes. Et par notre raison, par notre conscience, nous sommes capables de parvenir à une certaine forme de vérité. Mais vous serez tous d'accord avec moi que cette vérité importante, efficiente à laquelle on parvient, on fait des choses extraordinaires au travers et par le pouvoir de la connaissance humaine par notre conscience. Mais cette vérité, elle bute sur le défi de donner un sens à notre vie. Dans ce domaine, elle reste tâtonnante, balbutiante. Et pour relever ce défi d'une vérité qui donne un sens à notre vie,
Il faut que cette vérité vienne d'ailleurs que de nous-mêmes. Et cette vérité nous est révélée par le Seigneur. Une vérité révélée par les prophètes de l'Ancien Testament. Et le Seigneur dit, mais dans les derniers temps, après nous avoir parlé à plusieurs reprises, de diverses manières, par les hommes de l'Ancienne Alliance, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, par Jésus. Et Jésus est cette parole faite chair, cette parole incarnée. Le Seigneur a pris la forme humaine pour parler le langage des hommes et pour être, par son message, par sa vie, par sa mort, la parole dont nous avons besoin. La personne de Jésus englobe, comme on l'a vu dans ce texte de l'Apocalypse, le passé, le présent et l'avenir. De l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Christ est présenté dans la parole comme le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Cette parole donne du relief à nos vies. Elle nous situe à notre juste place dans l'immense décor de la création éternelle et infinie. Christ est la vérité, celle qui fait écho et donne réponse aux questions les plus profondes qui touchent à notre existence. Vous le savez, aujourd'hui, la vérité révélée, elle n'a pas bonne presse. L'homme moderne la prend de haut, la méprise. C'est une vérité qui échappe au raisonnement, mais elle seule est capable de lever le voile sur l'au-delà et d'assouvir l'aspiration profonde de nos âmes. Refuser la vérité, c'est tout simplement rendre Dieu muet. Et quand Dieu ne parle plus, quand sa parole est rare, le monde part à la dérive. Le prophète Ésaïe disait « À la loi et au témoignage, retour à la parole, sinon il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Et je crois que nous vivons dans un temps où le monde est à la dérive parce que le monde a tout simplement fermé la bouche de Dieu et ne veut plus l'entendre. La Bible comprend l'homme mieux que la psychologie. Elle révèle qui il est. Elle révèle toute la part de sublime, créée à l'image de Dieu, douée de raison, d'émotion, de conscience, douée d'un sens moral et de la pensée de l'éternité. La Bible révèle aussi toute la part d'ombre qu'il y a dans l'homme, ce voile du péché qui l'enveloppe, qui fausse tout, qui le fait souffrir, qui fait souffrir les autres, qui ruine ce qu'il y a de meilleur et qui conduit à la mort. Et enfin, troisième volet de cette révélation de la parole sur l'homme, la parole révèle pour le chrétien cette réalité salutaire d'une restauration par la grâce qui couvre le péché et fait naître en nous l'homme nouveau. Et celui qui a cette triple connaissance de la personne humaine il a les ressources pour mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, mieux agir et pour entrer dans la vie éternelle, abondante, nouvelle, que le Seigneur lui réserve. Jésus, le Seigneur, est l'alpha et l'oméga, de la connaissance. Il est aussi l'alpha et l'oméga de l'histoire. L'histoire de l'univers, l'histoire de la terre, l'histoire de la société humaine. On peut lire dans Colossiens, chapitre 1, 3 versets, les versets 15 à 17. Il est parlé de Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le Seigneur Dieu est l'alpha et l'oméga de l'histoire. Il est au début, au commencement Dieu. C'est ainsi que commence la Bible. C'est ainsi qu'a commencé le monde. Alors, quand on dit cela, au commencement Dieu, ça n'exclut pas la recherche scientifique, ça ne minore pas la recherche scientifique. De nombreuses sciences se préoccupent de sonder nos origines. J'ai relevé la géologie, la paléontologie, l'archéologie, la biologie, l'astronomie, la cosmologie, entre autres, se pose la question de nos origines. Et on peut dire que ça fait une bonne tranche de l'activité humaine, de l'activité intellectuelle des hommes, et tout cela est passionnant. Nous sommes curieux de savoir comment tout a commencé. L'univers, la terre, la vie, la conscience. Et ce que nous découvrons, bien que ce soit peu de choses par rapport à la réalité immense, bien ce que nous découvrons est phénoménal et nous donne le vertige. Mais quoi que dise la science, pour le chrétien, au début du début, il y a Dieu. Et dans le surgissement des éléments de l'univers, il y a Dieu. Et dans l'aboutissement, il y a encore Dieu. À la fin de l'histoire, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par Jésus. C'était la parole que l'apôtre Paul adressait aux Athéniens, qui étaient des hommes qui aimaient brasser les idées, la philosophie. Au début est Dieu, et à la fin de l'histoire, Dieu a donné rendez-vous, a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Ce jour sera le jour, le triomphe de la justice. Nous aspirons tous à la justice. Et alors, ceux qui auront aimé Jésus seront avec lui pour toujours. Quand on évoque la fin du monde, on pense à tous ces farfelus qui ont prédit, qui ont donné des dates sur la base d'arguments fantaisistes. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, on entend parler de fin du monde par des hommes beaucoup plus sérieux. On parle d'hiver nucléaire, d'hiver volcanique, ou bien de collision avec un astéroïde, ou bien de dérive climatique, ou d'épuisement des ressources de la planète, ou bien encore de ces trois fléaux qui ont existé de tout temps, la famine, la guerre, les épidémies. Et on sait que, on a conscience que le monde est fragile, la vie est fragile et on est beaucoup moins sûr qu'elle puisse durer encore des siècles et des siècles. La Bible nous parle de ces événements catastrophiques. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, il en est question. Mais elle nous dit aussi que le mal, que les catastrophes n'auront pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, le dernier qui paraîtra, l'oméga de l'histoire, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur est souverain. Je lis dans le livre des Hébreux, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne le soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Et c'est bien une réalité. Le Seigneur est souverain, nous le croyons. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Et c'est bien une réalité. Le Seigneur est souverain, nous le croyons, nous le savons, mais nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Et parfois, on a envie de s'écrier comme Ésaïe, « Si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » N'est-ce pas? Notre soupir, parfois. Mais dans le livre de Job, on lit cela. Le Seigneur se lèvera le dernier sur la terre. Tout pouvoir lui sera donné. Devant lui s'inclineront tous les puissants, toutes les autorités, tous ceux qui l'auront ignoré, méprisé ou combattu. Le point final de l'histoire, ce n'est pas le mal, ce n'est pas la ruine, ce n'est pas la catastrophe. Le point final de l'histoire, c'est le Seigneur. Le Seigneur est l'alpha, il est le commencement, pas simplement au sens de l'origine dans le temps, mais aussi dans le sens qu'il est la source de toute chose, le principe de tout ce qui existe. Et puis, le Seigneur est l'oméga, il est le dernier, pas seulement dans le temps, mais aussi dans le sens qu'il est la finalité, le but vers lequel tout doit tendre et vers lequel l'histoire doit aboutir. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Et ceux qui conçoivent l'histoire sans Dieu, restent à la surface des choses. Ils observent, ils cherchent à comprendre l'enchaînement des événements, mais ils restent étrangers au moteur profond qui anime les choses de l'histoire. Un peu comme dans un théâtre d'ombre chinoise. On voit la surface des événements, leur enchaînement, mais on n'en discerne pas le moteur, l'acteur. Et le livre de Job est tout entier consacré à, entre autres, à ce thème. Job traverse des circonstances heureuses, malheureuses, plus malheureuses qu'heureuses, et cela n'est que la face visible d'une réalité plus grande, qui dépasse infiniment. Et les amis de Job cherchent à le consoler en regardant la surface des choses, parce que eux non plus n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose qui venait d'ailleurs, dans la réalité qu'était en train de vivre Job. Maintenant, je voudrais parler de Christ, du Seigneur, comme étant l'alpha et l'oméga de l'Église. Jésus a présenté la foi comme une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui produit un homme nouveau appelé à vivre une vie nouvelle. Et ces hommes nouveaux forment une génération nouvelle et qui vivent une histoire nouvelle, celle de l'Église. Christ en est le commencement. Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Christ en est la tête. Il est l'origine de la vie spirituelle qu'il a mise en chacun de ses enfants. Il forme un peuple, une génération nouvelle qui vit aussi une histoire. On a parlé de l'histoire de l'humanité et il y a une histoire du peuple de Dieu. Et Christ en est l'alpha et il en est l'oméga. Il est le père, le commencement, le premier-né de cette nouvelle lignée. Et en revenant au chapitre 1 de Colossiens, on peut lire les deux versets qui suivent. On a lu les versets 17, qui nous parlait que Christ était au début de la création, de ce monde qui nous entoure, dont on vient de parler. Mais au verset 18, regardez, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et là, il est question, il est le premier-né dans l'histoire de l'humanité, il est le premier-né dans l'histoire de l'Église. Il est présenté aussi comme le second Adam, celui qui a engendré une postérité nouvelle. Il est le premier de l'Église, mais il est aussi le dernier. Il est présenté comme l'époux qui a donné rendez-vous à l'Église, son épouse, à la fin des temps. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur, nous serons pour toujours avec lui. Voilà la destinée glorieuse, réconfortante qui nous est promise. Au commencement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cette image a été ternie, perdue, mais à la fin, nous serons restaurés dans cette image de Dieu, parfaitement restaurée. Le Seigneur est celui qui initie la foi, il en est la source, mais il en est aussi l'aboutissement, l'accomplissement. Final. Il est celui qui mène la foi à la perfection et qui en recueille le fruit à la fin des temps. Et enfin, le Seigneur est l'alpha et l'oméga de chacun de nos parcours personnels. Chacun de nous ressent le besoin d'avoir des racines. Dans la Bible, on voit les Juifs aimaient beaucoup se référer à leurs ancêtres. Dans la Bible, il y a beaucoup de généalogies. Les Juifs aimaient se référer à leurs ancêtres et savoir qu'ils descendaient d'Abraham. Dans la généalogie de Jésus, on remonte de David à Abraham, à Adam, et à Dieu lui-même. Cette filiation est précieuse. C'est comme un point d'ancrage comme l'alpiniste qui est sur sa falaise. Et sans ce point d'ancrage, il est perdu. C'est un privilège de savoir d'où nous venons et où nous allons. Imaginez un bateau, un gros bateau de croisière, qui serait au milieu de l'océan. Il y a un peuple nombreux sur ce bateau, mais ce bateau, personne ne l'a jamais vu partir d'un port, personne ne lui a jamais dit où il va arriver. Le bateau est là, au milieu de l'océan. Les gens y travaillent, les gens s'y amusent. Ils traversent des moments sympathiques, des moments difficiles, de tempête. Ils tournent, et ça n'a pas plus de sens que ça. C'est la situation de l'humanité, aujourd'hui, de chaque homme qui n'a pas ses références. La vie n'a pas de sens. Pour nous, dans notre parcours, nous savons d'où nous partons et nous savons où nous allons. Et je note simplement deux courts versets de deux psaumes, l'un qui nous parle du début et l'autre qui nous parle de la fin. Dans le psaume 139, avant que je sois né, que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça, c'est pour le début. Dieu, au début de notre parcours. Et puis pour la fin, dans le psaume 73, je lis ceci. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Ça, c'est pour la fin. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga de nos parcours particuliers. Nous avons tous besoin d'un point d'appui solide pour partir sur de bonnes bases. Et nous avons tous besoin d'un horizon, d'un objectif pour garder le cap. Je m'adresse tout spécialement aux jeunes, mais tout le monde est quand même concerné. Permettez-moi d'être pressant. Combien il est important de bien commencer lorsqu'on entre, on s'engage dans quelque chose de nouveau. Et combien il est important de savoir où l'on va. Que le Seigneur soit votre alpha, votre point de départ. Au commencement, Dieu. C'est comme ça qu'a commencé l'histoire de l'humanité. C'est comme ça qu'a commencé notre vie physique. C'est comme ça que devrait commencer notre vie de relation avec le Seigneur. Au commencement, Dieu. Au commencement de nos projets. Au commencement de notre formation. Au commencement de notre activité professionnelle, au commencement de notre mariage, au commencement de notre famille. Partir dans toutes ces entreprises nouvelles avec le Seigneur au commencement. Au commencement de nos journées, au commencement de notre année. Qu'il soit notre alpha. Et puis, que le Seigneur soit votre oméga. En fin de compte, le but de la vie, c'est de glorifier Dieu. C'est de rechercher son royaume et de porter les fruits de l'Esprit. Et alors, le Seigneur vous donnera toutes choses dont vous avez besoin et que vous pouvez, auxquelles vous pouvez légitimement aspirer. Il vous donnera par-dessus. Il peut se faire que, au long du parcours, à un moment ou un autre, on perde de vue le Seigneur. Qu'on ne le reconnaisse plus au milieu de tout ce qui nous arrive. N'en restons pas là. Jésus n'est pas loin. Prions, ouvrons sa parole, rapprochons-nous des frères dans la foi, et le Seigneur ne tardera pas à se révéler comme tout à nouveau à notre cœur. L'alpha et l'oméga. Dans tous les domaines de notre vie. Et j'aimerais conclure en regardant l'une des quatre mentions qu'on a vues de cette parole dans Apocalypse au chapitre 21. On va relire au verset 6, Apocalypse 21 au chapitre 6, au verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et j'aimerais souligner l'encouragement que le Seigneur, l'alpha et l'oméga, donne à deux sortes de fidèles. Il parle à ceux qui ont soif et à ceux qui vaincront. Et d'ailleurs, il ne le met pas au pluriel. Il va encourager celui qui a soif et celui qui vaincra. Et j'ai pensé à ces deux catégories de personnes. Au milieu d'une foule de gens cultivés, qui jugent de tout, qui ne ressentent aucun besoin spirituel, qui pensent pouvoir s'en sortir par eux-mêmes, les gens qui n'ont pas soif. Heureux ceux qui mesurent leur faiblesse, leur carence. Heureux les humbles. Heureux ceux qui ont faim et soif de vérité et de justice. Ils seront pleinement comblés dans la grâce abondante du Seigneur. Il m'est revenu une formule que j'ai entendue, je ne sais plus, quand, je ne sais plus où, l'homme cultivé croit qu'il sait et le chrétien sait qu'il croit. C'est plus modeste, mais on peut s'en contenter et je crois que c'est porteur aussi pour notre marche avec le Seigneur. Ça, c'était pour la catégorie de ceux qui ont soif. Et maintenant, au milieu d'un monde à la dérive, où la majorité se laisse entraîner dans l'incrédulité, dans le matérialisme, dans la consommation à outrance, dans l'immoralité sans limite, dans une société où le mal semble sans remède, il reste quelques résistants. À ces vainqueurs, le Seigneur promet l'héritage céleste et le statut glorieux de fils de Dieu. Que Dieu veuille que nous soyons, pas d'une catégorie ou de l'autre, mais des deux, que nous soyons tous du nombre de ceux qui ont soif et de ceux qui vaincront. Et le Seigneur ne s'adresse pas là à un groupe, il s'adresse à des personnes seules. Parce que le grand nombre est déjà perdu, s'est déjà égaré dans son orgueil, dans son immoralité. Et il désigne, il s'attache à la personne de chacun de ceux qui veulent lui rester fidèles. Que le Seigneur nous donne de l'être. Mon vœu, c'est que le Seigneur soit pour chacun de nous l'alpha et l'oméga de l'année qui s'annonce. Qu'il soit l'alpha et l'oméga de chacune de nos journées, que tout ce que nous faisons, nous le fassions par lui et pour lui, par sa grâce et pour sa gloire. Amen. On va prier. Seigneur, ta parole nous fait connaître le Dieu du ciel et de la terre. Tu embrasses tout l'univers, toute l'humanité, dans ta sagesse, dans ta toute-puissance. Mais tu nous rappelles que tu connais chacun de nous et tu veux développer une relation d'amour. Merci parce que nous sommes du nombre de ceux qui te connaissent et nous voulons te connaître mieux. Nous voulons avancer avec toi, par toi, pour toi. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'une vision de l'aboutissement de notre parcours dans ta présence. Renouvelle cela pour chacun de nous. Et nous te remettons l'année qui s'ouvre, que tu puisses en être au commencement et jusqu'à la fin, et chaque jour avec nous, et que nous soyons et que nous demeurions en toi. Au nom de Jésus. Amen.